autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs. Pour cette dernière semaine de l'année, nous vous proposons de réécouter quelques-uns des entretiens les plus inspirants que nous ayons partagés ensemble, à commencer par celui que nous avait accordé le philosophe et hypnothérapeute François Roustan, disparu le 22 novembre dernier. Nous avons eu envie de rendre hommage à cet esprit libre, à ce grand penseur iconoclaste au parcours singulier, théologien, psychanalyste devenu hypnothérapeute et initiateur d'une réflexion singulière sur le changement radical induit par l'hypnose. Comment la pratique de l'hypnose peut-elle modifier en profondeur le regard que nous portons sur nous-mêmes et jusqu'à notre rapport au monde? Comment habiter autrement sa vie? Voilà quelques-unes des interrogations fondamentales que nous avions soulevées avec François Roustan. C'était en septembre 2015, autour de la question « Pourquoi et comment laisser se faire ?» Question évidemment déroutante, à l'image et en hommage à François Roustan. Bienvenue. Bonjour François Roustan.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct avec nous, pour nous dérouter peut-être, pour nous faire partager en tout cas la réflexion radicale que vous menez en tant qu'hypnothérapeute et philosophe sur l'hypnose. Pourquoi et comment ça marche? Difficile de mettre en mots ce qui se joue. C'est pourtant ce que vous faites au fil de vos essais. Les éditions Odile Jacob viennent d'éditer en un seul volume trois de vos écrits fondamentaux. La fin de la plainte, il suffit d'un geste. Et savoir attendre, tout un programme, réuni sous le titre, lui aussi énigmatique, jamais contre, d'abord. Jamais contre, d'abord, ça pourrait être une piste pour comprendre votre position d'hypnothérapeute, François Roustan.
Peut-être, j'avais espéré que ce titre serait refusé par Odile Jacob, mais elle l'a accepté.
Il va falloir l'expliquer maintenant.
Oui, en fait, ça sent les arts martiaux, qui de fait nous habitue, nous demande d'abord de laisser venir la difficulté et ne pas se raidir devant l'attaque. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que l'hypnose, on pourra développer ça, l'hypnose nous demande d'abord d'accueillir ce qui est. Et ce que fait le thérapeute, c'est de n'avoir, quand il reçoit quelqu'un, aucun préjugé, aucun diagnostic, aucune perspective, aucun conseil à donner. Il est là simplement comme une surface de réceptivité et qui doit accueillir le patient tel qu'il est aujourd'hui.
On va essayer de faire de même, on va peut-être essayer d'accueillir, de lâcher le connu pour vous suivre. François Roustan, sans chercher à tout comprendre autour de la question « Pourquoi laisser se faire ?» Notre séance commence par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix forcément hypnotique de Guillaume Ploquin.
Vous non plus n'avez pas oublié le livre de la jungle et les yeux psychédéliques du serpent K qui hypnotise ses futures victimes.
Quand nous attendons quelque chose de précis, nous bloquons notre disponibilité. C'est ça qui est très déconcertant, je pense.
Une image plaisante de l'hypnose, aussi fantaisiste que fausse.
L'hypnose sert à remettre quelqu'un en mouvement, là où il était figé, immobilisé.
Oui, on va soigner la douleur, on va traiter la douleur par l'hypnose, mais en réalité, on va plonger tout entier le patient dans cette expérience et on va donc observer des modifications dans tout ce qui fait ses liens dans la réalité d'aujourd'hui.
L'hypnose a été une des voies d'accès à l'inconscient du temps de Freud. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui?
Je trouve qu'il raccroche les wagons de ce que devrait être une psychanalyse, c'est-à-dire une des modalités de la philosophie, comme c'était dans la philosophie antique, c'est-à-dire une thérapie existentielle.
Tout est confondu avec l'univers. Au niveau de l'hypnose profonde, l'esprit émerge. Toute plante qui se présente à ce niveau-là est fondamentalement la plante qui va soigner son malade.
Moi, pour mon cerveau d'occidental, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre. Ça me paraît très bizarre.
Quelle preuve scientifique on a en ce sens aujourd'hui?
Je pense qu'on parle beaucoup d'hypnose aussi parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que ça reste un mystère. Parce que quelque chose nous échappe.
Moi, ça ne me paraît pas bizarre puisque je suis dedans.
Ce qui est un peu étonnant, j'ai envie de dire, après la première séance, c'est que, alors consciemment, j'en sais rien, enfin, en tout cas, j'étais consciente, j'y ai beaucoup pensé.
Pouvez-vous maintenant Visualisez quelques fruits que vous aimez bien.
On sent bien que c'est quelque chose d'utile. Parce que l'hypnose est efficace.
L'hypnose est efficace, François Roustan. C'est le premier constat sur lequel on peut peut-être partir.
Elle ne l'est pas toujours. Ce n'est pas du tout automatique. Mais comment aller tout de suite au cœur de la question? Je pense que ce qui est capital, c'est que justement, on ne se défend plus devant la réalité. On reconnaît la réalité et on l'accepte. Je peux vous donner un exemple encore plus précis que ça. Les hypnotiseurs de la fin du 19e se contentaient de demander aux patients de fixer un point et de le fixer de telle manière qu'au bout d'un certain temps, c'était pas, on ne leur expliquait pas ça avant, mais si vous regardez un point et que vous excluez tout ce qu'il y a aux alentours, autour de ce point, vous ne pouvez plus le voir. Et en ne pouvant plus le voir, on accède à quelque chose d'autre, c'est-à-dire non pas un objet, mais un environnement. L'esprit flotte et l'esprit ne peut plus diriger. À ce moment-là, on est, toute proportion gardée, comme un animal qui flaire alentour et qui est ouvert à tout ce qui peut apparaître aux alentours.
C'est ça qui se joue dans une séance d'hypnose, c'est quoi? C'est revenir, pas à un état d'animal, mais à un état, vous dites parfois, où il faudrait oublier la tête, enfin revenir dans son corps, être dans son corps.
Tout à fait, tout à fait. Et par exemple, si on se laisse aller justement à regarder quelque chose que l'on ne peut plus regarder, ce sont tous les sens qui sont mis en suspens. Mais il y a une autre manière d'appréhender les choses qui n'est pas... qui ne relève pas de la volonté et qui ne relève pas du langage. C'est ça qui est le plus difficile à supporter chez les Occidentaux, et peut-être chez les Français plus encore.
Parce que nous sommes très cartésiens, et comment ça se passe pour le psychothérapeute que vous êtes? Vous étiez psychanalyste au départ, ça passe par les mots. C'est quoi la position de l'hypnothérapeute, celui qui hypnotise?
Devant quelqu'un, je ne sais plus rien, je ne fait que voir, entendre, m'ouvrir à cette personne et découvrir peu à peu sa singularité.
Découvrir sa singularité.
Oui, sa singularité. C'est-à-dire que finalement, pourquoi c'est explosif une véritable séance d'hypnose? C'est parce que le thérapeute regarde la personne comme elle n'a jamais été regardée, comme elle n'a jamais été entendue, comme elle n'a jamais été perçue, je dirais presque, comme elle n'a jamais été goûtée, c'est-à-dire sans aucune volonté d'imposer quoi que ce soit à cette personne. Et c'est ça qui est extraordinairement efficace. Parce qu'à ce moment-là, la personne qui est là peut s'ouvrir à sa vie, à sa propre vie, et aux circonstances de sa vie, sans aucune barrière.
Autour de la question, pourquoi laisser se faire, c'est ça. C'est laisser ce que l'on est.
Voilà, laisser se faire ce que l'on est sans juger, sans ajouter une parole ou un diagnostic ou quelque chose d'autre qui va figer la personne. On entre dans une fluidité totale.
Mais c'est extrêmement difficile, en fait, de laisser se faire, enfin, de laisser, justement.
C'est un apprentissage, certainement, mais ça peut se faire de façon très, très, très simple. Par exemple, vous pouvez vous contenter de mettre votre index en contact avec votre pouce, et puis vous centrer votre attention sur le point de contact entre votre pouce et votre index.
J'essaie de le faire, là, oui.
Oui. Et si vous prolongez, mais là, vous devez être attentive à ce que je dis, et donc ça ne peut pas marcher.
Et oui, parce que là, il faut que je sois attentive à ce que vous dites et je ne peux pas me laisser aller à la sensation que je vais avoir.
Mais une autre
fois, Guillaume, il a peur de l'autre côté de la vie.
Ce soir ou à un autre moment, vous pourrez faire cette petite expérience. On ne peut plus voir au sens où nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire de comprendre ce que nous voyons, de disserter sur ce que nous voyons, etc. Là, on se laisse complètement aller, et on se laisse aller à notre position actuelle dans l'existence. C'est ça qui...
On se laisse aller au présent, enfin, à ce qu'on est sans penser, sans mettre quelque chose dessus, c'est ça que vous dites.
Mais à tout à la fois.
tout à la fois.
Mais oui, on ne choisit pas, notre perception ordinaire choisit des mots, si nous parlons, choisit des odeurs si nous mangeons, etc. Tandis que dans cet état, on ne choisit plus. Je me souviens très bien le jour où une personne était dans l'état d'hypnose, et à la fin, je lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez senti ?» Elle m'a dit simplement « Tout à la fois ».
Tout à la fois.
Et ça, c'est le signe que l'expérience a été faite.
Ça paraît simple, mais c'est si compliqué la simplicité. On écoute Gaëtan Roussel sur RFI, la simplicité.
C'est un paradis escarpé, un oiseau que tout effraie. C'est rien, mais c'est si compliqué.
La simplicité,
ça paraît toujours avoir existé. Combien de feuilles, de cahiers, de ratures pour s'en approcher. C'est rien, mais c'est si compliqué.
La simplicité,
ça paraît toujours avoir existé. Des heures entières à la chercher, à tenter de l'apprivoiser. Ça paraît toujours avoir existé.
La simplicité,
c'est rien, mais c'est si compliqué. Ou bien de contrôle. C'est rien, mais c'est si compliqué.
La simplicité,
ça paraît toujours avoir existé. C'est un paradis escarpé.
La simplicité,
un oiseau que tout effraie.
La simplicité,
ça paraît toujours avoir existé.
La simplicité,
c'est rien, mais c'est si compliqué.
Ça paraît toujours avoir existé, la simplicité de Gaëtan Roussel sur RFI, ça vous plaît, François Rostand?
Mais oui, c'est excellent. Mais, l'expérience que nous essayons de définir maladroitement dans l'hypnose, les poètes le savent bien. Ils sont dans les mots, au-delà des mots. Ils font une expérience, je pense par exemple au sonnet de Baudelaire, les correspondances, voilà, tout va ensemble. Il n'y a pas simplement un sens qui est en jeu, mais tous les sens jouent ensemble. Et il y a un mélange d'horreur et de merveille dans tout
en
ça.
En même temps.
Tout en même temps.
François Roussel, je propose un nouvel éclairage sur ces interrogations et ce mystère simple et compliqué de l'hypnose. C'est celui d'une psychologue. Joëlle Mignot est spécialisée en sexologie clinique et en hypnose thérapeutique. L'hypnose pour retrouver le désir ou soigner des troubles sexuels. Elle est interrogée par Charlie Dupiau.
Alors l'hypnose pour la sexualité, c'est permettre aux patients qui sont dans des difficultés sexuelles de retrouver un contact avec leur corps d'abord et surtout de pouvoir revivre une sexualité épanouie et positive. Donc l'hypnose le permet parce que c'est effectivement un état de conscience modifié qui est très proche d'ailleurs de l'état qu'on retrouve dans la sexualité, dans les rapports sexuels ou dans les rapports affectifs. Et donc cet état que nous travaillons en tant que thérapeute avec le patient leur permet de retrouver une sexualité plus équilibrée, dans une plus grande liberté intérieure.
Quelles techniques vous utilisez, par exemple ?
Les techniques qu'on utilise en sexologie avec l'hypnose sont surtout des techniques corporelles, dans un premier temps, qui permettent la prise de conscience du corps du patient, en particulier pour les femmes, par exemple, qui souvent n'ont pas du tout de conscience de leur intériorité, de leurs organes internes. Pour les hommes aussi, d'ailleurs, c'est très important de leur faire prendre conscience qu'ils ont des organes génitaux. Le travail sur la respiration aussi, on permet aux gens, en utilisant leur respiration, d'étendre, par exemple, certains muscles comme le périnée. Alors c'est vrai qu'on est assez peu de praticiens en France à faire ça, et donc on ne peut pas utiliser l'hypnose comme ça directement sur la sexualité sans avoir une profession de base médicale ou paramédicale. Et surtout, l'hypnose permet de réhumaniser le soin. Et ça apprend aussi à mieux se connaître, tout simplement.
réhumaniser le soin, reprendre conscience de tout son corps. Vous voulez réagir à cet éclairage de la psychologue Joël Mignot, recueilli par Charlie Dupiau, François Roustan?
Oui, d'abord, je crois que la définition de l'hypnose qui est donnée là, un état de conscience modifié, me paraît tout à fait contradictoire.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors que pour beaucoup, c'est ça l'hypnose, un état de conscience modifié.
Justement, parce qu'on veut absolument tenir à la conscience comme si c'était la perle définitive de l'être humain. C'est pas vrai. État de conscience modifié, non. C'est pas un état de conscience. Justement, on perd le souci de la conscience.
C'est autre chose, l'hypnose.
C'est autre chose. C'est autre chose parce que ça nous fait entrer en contact immédiat. D'ailleurs, les exemples que donne cette psychologue sont frappants. C'est vraiment prendre conscience de son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre contact avec son propre... habiter son corps. Ça, oui. Mais c'est pas un état de conscience.
Et réhumaniser le soin, nous disait aussi cette psychologue. Alors,
certainement, aujourd'hui, l'hypnose a beaucoup de succès parce que les médecins s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seulement des machines à donner des médicaments, mais qu'ils ont à avoir contact avec le... Et une pratique de l'hypnose, pour eux, leur donne la possibilité d'être beaucoup plus libres dans leur relation avec les malades. Ça, c'est sans aucun doute.
L'hypnose, aujourd'hui, est pratiquée. Est-ce qu'on peut dire que l'hypnose soigne? Elle sert comme antidouleur pendant des opérations. Elle est pratiquée, vous le dites, par des médecins qui, du coup, réhumanisent leurs soins. Est-ce que l'hypnose soigne?
Alors, François, c'est une question très... compliqué. Pas compliqué, mais il faudrait beaucoup de temps pour essayer de l'éclairer. Mais par exemple, un ami qui pratique l'hypnose reçoit une personne qui souffre de l'intestin de façon tout à fait chronique. Il fait avec elle une des séances d'hypnose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le contexte de la vie de cette femme est modifié. Par exemple, au bout de deux ou trois séances, cette femme revient chez elle, et le soir, elle dit « ce soir, je ne fais pas la cuisine, vous vous débrouillez, je ne fais pas la vaisselle non plus, débrouillez-vous ». Et peu à peu, elle revit, et elle s'aperçoit, après quelques séances, que les douleurs n'ont pas du tout la même place dans sa vie.
Ça fait changer de place, quoi, soi-même, les choses, et même notre environnement,
absolument,
c'est ça que vous dites?
Absolument. Encore hier, un thérapeute me disait que, à plusieurs reprises, après quelques séances, quelqu'un qui était au chômage trouve, comme par enchantement, le travail qui lui convient. C'est-à-dire qu'on replace l'individu dans son contexte de vie, et on replace, c'est faux de dire ça, il se replace, il est replacé dans le contexte de sa vie, et comme par hasard, il y a des contacts qu'il ne percevait pas, qui deviennent tout à fait possibles pour lui.
Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas magique, c'est même peut-être pas si mystérieux que ça. C'est quoi? C'est un déplacement? On
absolument
sort de là où on est à ce moment-là et on se met ailleurs?
Absolument, ça n'a rien de mystérieux. Ou c'est magique au sens où on entre dans l'environnement et l'environnement nous devient favorable. Ou favorable ou hostile, mais il nous devient possible d'accéder à cet environnement.
Parce qu'on s'est déplacé ou qu'on a changé notre manière habituelle d'être dedans?
Surtout parce qu'on a ouvert les possibilités. C'est un des effets typiques de l'hypnose. C'est l'accès, d'ailleurs Erikson le disait, son inconscient, ce qu'il appelait l'inconscient, c'est un recueil de possibilités pour l'individu. Donc dans ces possibilités, il y a des choses que on ne percevait pas du tout, et qui deviennent réelles maintenant, parce que justement, on a laissé entrer cette possibilité dans notre existence.
Laisser entrer les possibilités, ouvrir les possibles autour de la question comment laisser se faire, et pourquoi et comment ça peut tout changer. On continue de s'interroger ensemble, si vous le voulez bien, François Roustan, sur la fécondité et l'efficacité de l'hypnose, dans 3 minutes, juste après le flash d'info. A tout de suite.
Les grandes voies d'Afrique. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Pourquoi laisser se faire ?» Déroutante question à l'image et en hommage à François Roustan, philosophe et hypnothérapeute, disparu le 22 novembre dernier. Nous vous proposons de réécouter la suite de l'entretien que ce formidable empêcheur de penser en rond nous avait accordé en septembre 2015 à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de ses écrits fondamentaux sur l'hypnose, réunis en un seul volume sous le titre « Énigmatique, jamais contre, d'abord ». Car si l'hypnose reste un mystère, comment ça marche, pourquoi ça nous change, François Roustan est sans conteste celui qui a su induire le changement et faire passer le mystère.
Dans la pratique des arts martiaux, tous les grands maîtres sont des grands pratiquants du zen. Et le principe du zen, finalement, c'est de se déconnecter sa conscience de sa pratique. Et donc ce que je considérais comme du folklore, en fait, je pense qu'effectivement c'est ça, c'est apprendre à suivre uniquement son intuition pour être plus efficace, pour agir plus vite, pour faire des choses qu'on ne ferait pas si on les faisait purement de façon consciente, et donc de laisser libre cours d'une certaine façon, être plus en prise avec l'environnement et peut-être agir de façon moins rationnelle mais plus adaptée.
C'est le chercheur en neurosciences Thomas Borot qui était récemment notre invité et qui a changé d'avis sur l'hypnose, François Roustan, pour laisser s'opérer le changement. Je reprends le titre d'un de vos livres, Il suffit d'un geste.
Oui, alors quelle est la question?
Eh bien justement, il suffit d'un geste pour faire changer les choses.
Oui, parce qu'un geste, ça veut dire tout le corps. Et tout le corps, ça veut dire aussi l'esprit. Wittgenstein disait que le corps, c'est la plus belle image ou la meilleure image de l'esprit.
C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire une distinction entre les deux ou ne s'adresser
absolument
qu'à notre tête.
C'est-à-dire en finir avec la psychologie. La psychologie a chosifié justement l'individu en disant il y a une psychologie et on va aller essayer d'agir à l'intérieur de cette psychologie. Je crois que ça n'a pas de sens. Alors que ce qui est important, c'est de retrouver justement cette unité ou d'habiter son corps. Une des caractéristiques d'une séance d'hypnose, c'est justement l'habitation d'un corps que l'on peut d'ailleurs détailler. On peut dire, est-ce que vous sentez vos épaules, est-ce que vous sentez vos bras, est-ce que vous sentez votre ventre, et peu à peu justement réinvestir notre humanité. Et en ce sens, je crois de fait que les médecins qui étaient peut-être plus tentés, qui sont encore toujours tentés de voir la médecine comme une science qui se mesure et qui ne tient pas compte de l'individu, aujourd'hui s'aperçoivent de l'importance justement d'une relation humanisée et donc d'une possibilité de transformer les relations entre médecin et malade.
Parce qu'un individu, c'est un corps, enfin, c'est d'abord un corps.
C'est d'abord un corps vivant.
Un corps vivant, c'est ouais. Ça. Et qui revient, du coup, c'est ce que vous dites aussi, enfin, comment dire, qui renoue avec la vie d'une certaine manière. Parce que parfois, quand on est mal, ou quand on n'arrive pas à changer, ou quand on est figé, on est quoi? On est un peu moins vivant?
On est un peu moins vivant, et surtout, on arrête le flux de la vie. Et se laisser faire, c'est précisément ça, et faire un geste plein. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, dont les parents étaient éclusier, et elle avait ce geste spontané de l'ouverture des écluses. Elle a refait ça à plusieurs reprises au cours de la séance, et il y a tout un pan de sa vie qui a été éclairé et qui a été revigoré par là.
Il suffit d'un geste pour retrouver ce flux de la vie. Vous êtes proche aussi, François Roustan, des philosophies orientales, taoïstes, du non-agir chinois.
Ça tout se... à fait. Le non-agir, ça veut dire qu'on est à la fois silencieux et sans volonté. Et c'est cet état-là de non-volonté et d'ouverture qui est décisif pour une transformation d'un individu.
Pour une transformation et pour une action, parce qu'il s'agit d'agir. Il s'agit pas de... Enfin, c'est ne rien faire, mais c'est pour mieux agir. Enfin, c'est un peu paradoxal.
Tout à fait. Parce que ce qui est important, c'est justement, on sait bien la différence qu'il y a dans tous les sports, par exemple, mais dans la vie, la façon dont quelqu'un épouse l'action qu'il est en train de faire. Il y a une différence radicale entre quelqu'un qui se force à jouer au tennis, il en parlait tout à l'heure à la radio, et un autre qui entre dans le mouvement. La différence entre Federer et Nadal, qui est criante. Il y en a un qui force, on a l'impression qu'il est toujours force, et il se fait mal, tandis que l'autre est souple et entre naturellement dans le mouvement qui lui est imposé.
Naturellement dans le mouvement, suivre le mouvement, c'est aussi quelque part sortir un peu de notre rationalité occidentale pour aller voir ailleurs, du côté de la Chine ou du côté des sociétés traditionnelles, des trans-africaines notamment. Ça vous tient à cœur, François Roustan. Vous avez souhaité qu'on puisse faire le lien aussi entre l'hypnose et la trans. Sur notre antenne, sur RFI, vous aviez eu un échange fructueux, c'était dans Priorité Santé, avec un médecin béninois, le docteur Moussa Mamandelo, que l'on salue, parce que je crois qu'il nous écoute en ce moment. Mais je sais que ça vous tient à cœur, ce lien entre trans et hypnose.
Parce que j'ai l'impression que ce que nous faisons en hypnose, c'est une pauvre réduction de ce qui se fait dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, quelqu'un qui est malade est accompagné par les villageois, et il est accompagné par la musique, par le rythme, par les chants, par la tension qui est propre à ces cérémonies. Donc c'est tout ça qui entre en jeu. Et nous avons à essayer de réinventer cet état qui transforme. Nous sommes transformés. On sait bien qu'une atmosphère, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une soirée, que ce soit dans un bar, l'atmosphère transforme l'individu. Eh bien, c'est cette atmosphère que l'on recrée en hypnose, en laissant venir tout ce qui peut venir. Mais les sociétés traditionnelles savaient très bien comment faire pour réintégrer quelqu'un dans la vie sans les maladies.
Je propose d'ailleurs à ce sujet l'éclairage d'un autre thérapeute sénégalais. Cette fois, il s'appelle Omar Ndoye. Il est psychologue, enseignant-chercheur à l'Institut de recherche et d'enseignement de psychopathologie de l'Université de Dakar et auteur aux éditions L'Harmattan d'un ouvrage sur les trans-thérapeutiques chez les Lébous du Sénégal, des trans-collectives où effectivement la musique et la présence des proches jouent un grand rôle. On écoute Omar Ndoye.
En fait, la trans et les thérapeutiques, elle s'inscrit dans un processus de réconciliation interne et environnementale. Mais tout cela suivant effectivement un système vertical et un système horizontal. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la croyance, mais la trans, au fait, elle est métamorphose dans le sens où l'autre est convoqué dans le corps de la personne. Nous, on dit un cheval, au fait. C'est un cheval qui est chevauché par l'autre. Mais en tout cas, cette personne n'est plus qu'une entité chevauché, orienté par l'autre qui emprunte son corps. Et c'est à partir de là que les régulations sont faites. C'est-à-dire que les exigences de l'autre sont en fait amplifiées par la personne malade. C'est-à-dire que la personne malade n'est plus qu'un amplificateur, une caisse de résonance pendant la transe. Et la transe va permettre de nommer l'autre, donc à nommer celui qui a rendu malade, et aussi à annoncer les exigences de l'autre en vue d'une réparation. C'est ça. Au fait, la transe est cadrée dans un processus thérapeutique qui va permettre la mise en lien avec l'autre et la réinscription, non seulement dans le système lignagier, mais aussi dans le système spirituel. La transe n'est pas une démarche individuelle, elle est collective. Par exemple, j'ai fait des films sur la transe, tout cela. J'ai beaucoup enregistré. Quand je revois mon enregistrement avec une personne concernée qui était tombée en transe et que j'ai filmé, je suis obligé de couper le son pour que la personne ne tombe pas en transe encore. Il faut qu'il y ait cette association-là de la parole, mais aussi du son, donc la musique. Et on ne tombe pas en transe avec n'importe quelle parole. C'est ça qui fait un peu le charme de tout cela. C'est-à-dire qu'il y a une chanson, par exemple, qui peut mettre la personne A en transe, mais en même temps, cette chanson peut être la chanson de sortie de transe pour la personne B. Et ça, c'est difficilement explicable scientifiquement.
Du difficilement explicable scientifiquement. Comment expliquer en mots ce qui se passe, ce qui se joue dans ces transes, François Roustan ?
Les trans traditionnelles,
oui.
C'est une réintégration de l'individu à la communauté dans laquelle il fait partie. Et c'est certainement ce mélange de musique, de rythme, d'accompagnement, de toucher aussi.
Qui permet quoi de déplacer et de se replacer, c'est quelque chose comme ça.
Qui permet de réintégrer quelqu'un qui était... Nous sommes toujours tentés d'un isolement. Et pour être réintégré à la communauté des vivants, il faut justement tous ces ingrédients. Mais nous n'avons pas ces possibilités. On a réduit les trans traditionnels à quelque chose d'extrêmement limité, de très individuel, très individualisé, d'où l'étrangeté d'ailleurs pour nous. Alors que...
Oui, pour nos esprits cartésiens, tout ça paraît bien étrange.
Oui, mais on sait ce qui se passe pourtant dans un bar, quand les jeunes se mettent à boire et à se droguer, ils savent bien qu'ils se transforment. Eh bien, en fait, traditionnellement, c'était quelque chose de semblable qui jouait et qui régénère les individus.
On a besoin de se transformer, on a besoin de changer. Et on a besoin d'aide à cette transformation, quoi, perpétuelle en fait.
Oui, mais ça peut être... il faudrait vraiment définir les choses plus finement. Mais nous avons besoin de retrouver les ingrédients qui ont fait notre existence, qui font notre existence. Un enfant, et on le sait bien, et plus il est petit, plus il est absorbant de toutes les possibilités des individus. Un enfant qui un jour voit sa mère revenir d'une séance d'hypnose et qui, à 4 ans, lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, il y a une perception beaucoup plus limpide.
Du changement chez l'autre et de ce qu'est l'autre.
De ce qu'est l'autre, voilà.
Et au fond, c'est retrouver ça. C'est finalement, ensuite, on aurait tendance à se figer dans ce qu'on est, dans nos pensées, dans nos croyances, se figer, oui.
On n'a pas seulement tendance.
On se fige.
Oui, certainement. Et une séance d'hypnose ou de méditation, probablement, permet une réouverture et une exploitation de nos ressources de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus naturelle.
On en a sacrément besoin aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors individuellement, mais aussi collectivement, de changer, d'ouvrir des possibles. C'est comme si c'était, on a l'impression que c'est une nécessité aujourd'hui.
Mais comment en douter ? Certainement.
Vous parlez, François Roustan, de réinventer quoi, une hypnose écologique, justement, qui tienne compte de tout.
Mais je crois que c'est par définition. Écologique, ça veut dire qui est lié à l'environnement. Et c'est très facile, si l'on est souple, si l'on est silencieux et sans vouloir, il y a de grandes chances, justement, qu'on puisse percevoir l'environnement de façon beaucoup plus intense.
Si l'on est silencieux et sans vouloir, c'est très facile, dites-vous, mais en fait, il n'y a rien de plus difficile, d'autant plus dans nos sociétés, que d'être silencieux, sans rien faire et sans vouloir.
La difficulté, c'est que, justement, on n'a pas... C'est pas difficile, c'est impossible, sauf si on change de registre, si on se laisse vraiment aller. Si quelqu'un lève un bras et le laisse tomber vraiment, se laisse prendre par ne serait-ce que la gravitation, il a beaucoup plus de chances de trouver les gestes qui vont convenir pour son existence.
Donc il faut se remettre là-dedans, enfin se remettre dans ce qu'on a oublié ou ce qu'on oublie.
Oui, c'est ça, ce qu'on oublie sans cesse. On veut toujours, nous voulons toujours dominer nos existences, alors qu'il faudrait d'abord les recevoir.
D'abord les recevoir. Sur RFI, je vous propose de nous laisser recevoir et porter par l'hypnotrance de Gassanji, prix découverte 2014. Gassanji sur RFI, hypnotranse, sous-sous, c'est pour vous, François Roustan, parce que vous parlez de la danse aussi dans vos écrits, et de l'importance de quoi? De la danse. Alors ça peut sembler bébête, c'est danser avec la vie, mais de la danse.
Oui, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait, mais c'est très, qui est spécialiste, enfin qui danse comme métier, il dit, vous avez écrit des livres sur la danse. Probablement qu'elle ait aperçu justement ce qu'il y avait de le mouvement qui est donné par cette interdiction de dominer les choses et d'entrer, on dit entrer dans la danse. Ça veut dire précisément qu'on abandonne le quant à soi pour entrer en relation avec les autres et dans le mouvement même et dans la musique.
Et dans le mouvement, on peut changer, on peut justement se laisser aller au mouvement,
oui,
et changer soi-même.
C'est quoi. Ça qui est, cette immobilité dans l'état hypnotique, c'est déjà une danse. C'est déjà une entrée dans le mouvement de notre existence.
Paradoxal toujours autour de la question, pourquoi laisser se faire et comment laisser faire l'hypnose? Ça, c'est la question que vous pose le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud, qui travaille lui sur l'attention.
Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les obstacles à se laisser faire, justement. Qu'est-ce qui rend si difficile ce lâcher prise? Pourquoi est-ce qu'on a tant envie de rester en contrôle?
Pourquoi, François Roustan?
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de changer. Parce qu'on n'a pas envie de changer. Donc il demande... La question, c'est...
Pourquoi? Pourquoi on reste en contrôle? Pourquoi c'est difficile de laisser se faire ou de se laisser faire ou de se laisser aller?
Moi, c'est pas une question de difficulté ou de pas difficulté, c'est impossible. C'est impossible dans notre façon de catégoriser les choses, dans notre façon de dominer nos vies. On vous dit, faites attention, montrez un peu plus de volonté, faites un effort, etc. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Et cette souplesse et ce naturel qui est justement caractéristique de l'état de transe, on s'y refuse, parce que c'est très intéressant. Au cours d'une séance, on voit bien qu'il y a d'abord une explication, on propose des choses, mais il y a un moment où le patient est pris de peur. Et cette peur est très intéressante, parce que justement, c'est le passage d'un état de maîtrise à un état d'abandon et de participation.
On a peur, on ne veut pas lâcher.
On ne veut pas lâcher, mais... Pourquoi c'est difficile? Parce que notre mode de vie, surtout en Occident, c'est précisément une maîtrise. Et on ne veut pas abandonner la maîtrise. Donc je crois que ce n'est pas très, très sorcier. J'avais lu ce livre de Lachaud, qui est très intéressant.
Oui, sur l'attention.
Sur l'attention, de fait. C'est ne plus faire attention parce qu'on est dans le mouvement. Un grand champion n'a pas à faire attention. S'il fait attention, il est perdu.
Mais quand on ne force plus pour faire attention qu'on fait vraiment attention.
Voilà, c'est ça. L'attention est vivante. L'attention est naturelle.
Vous dites aussi qu'une séance réussie ou la fin d'une séance, ça se termine souvent, ou ça peut se terminer, pour le mieux d'ailleurs, par un éclat de rire.
Oui, ça c'est une chose qui m'arrive surtout depuis l'année dernière. C'est très caractéristique, peut-être parce que moi je me sens plus libre maintenant pour proposer des choses et pour même... Et puis surtout, ça se termine par l'éclairage, parce que nous nous apercevons que nous sommes de pauvres imbéciles de nous durcir pour essayer de résoudre nos problèmes. Et que le mieux, c'est d'être très souple, de ne pas faire le malin et de sentir les choses qui s'imposent à nous.
De s'alléger, et quand on se regarde, et ben ça nous fait rire. Absolument. Sur la manière dont on tient toujours.
Ça arrive même à des gens extrêmement sérieux, bien dans leur peau, c'est ça, qui éclatent de rire, en s'apercevant qu'ils sont, comme on dit, un petit peu cons.
Vous-même, François Roustan, alors je ne sais pas si vous éclatez de rire souvent, mais vous-même, à la fois ce travail d'hypnothérapeute, ce travail de philosophe aussi, d'essayer de mettre en mots ce qui se passe et ce changement, ces conditions du changement, ça vous a changé?
Ah, certainement, ça m'a changé. Je suis probablement toujours aussi insupportable, mais peut-être un petit peu moins pour moi.
Un petit peu moins pour vous-même, voilà, oui, c'est ça.
Mais c'est un c'est une chose qui est quotidienne, parce que à la fois, quand on a passé un certain cap, on sait ce que c'est que cette expérience, et en même temps, c'est tous les jours qu'on a à s'y remettre. Tous les jours, surtout quand je reçois quelqu'un, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est quand j'ai reçu une, deux, trois personnes, je me sens beaucoup mieux, parce que je me suis oublié complètement et j'ai été présent à la personne qui est là.
Mais être présent, justement, vous dites qu'il faut y revenir sans cesse, et moi j'ai l'impression, enfin en vous lisant, on se dit oui, c'est vrai, c'est ça, finalement c'est simple, sauf qu'on l'oublie tout de suite après, et que dans le cadre de nos vies, on repart, enfin moi en tout cas, je repars dans ma tête, et je ne reste pas dans ce corps auquel vous nous rappelez, François Roustan.
Il vaut mieux aussi, de temps en temps.
C'est vrai.
De temps en temps. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter. On peut être de plus en plus dans sa tête pour faire ce qu'on a à faire, et en même temps, si j'écris, c'est bien parce que je suis dans ma tête. Si je cherche à comprendre un petit peu depuis des années ce qu'est l'hypnose, c'est bien parce que je cherche et que c'est un travail intellectuel qui me met en dehors de l'expérience. Et puis, surtout dans mon travail de thérapeute, le fait de devoir justement abandonner tout préjugé fait que peu à peu, il y a une transformation qui s'opère.
Une transformation qui s'opère, et on se dit aussi que l'hypnose, évidemment, c'est thérapeutique, mais c'est aussi à vous lire un art de vivre, une philosophie, enfin ça va quand même aussi loin que ça, c'est-à-dire que ça change autre chose quand même.
Ça peut l'être, moi je n'insiste pas tellement là-dessus, c'est plutôt le caractère thérapeutique qui m'intéresse. C'est-à-dire, on ne soigne pas directement, mais on transforme l'existence.
On transforme l'existence, c'est quand même magnifique ça.
Ah oui, certainement.
Et aujourd'hui, on en a tant besoin, j'ai l'impression, de transformer nos existences. Ça peut aussi collectivement peut-être être une piste ou des pistes.
Ça, je n'ai pas exploré ça. Mais il faut plutôt demander alors aux sociétés traditionnelles de nous enseigner ça.
Il faut aller voir ça du côté des sociétés traditionnelles, ouais, et de leur trans à eux alors.
Voilà, ça.
Merci infiniment François Roustan d'être venu en direct sur RFI, nous faire partager donc, je sais pas comment dire, l'indicible, et puis nous avoir fait ouvrir un peu les portes, hein, et apercevoir tous les possibles justement. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob et qui reprend vos essais précédents et des écrits inédits, Jamais contre d'abord, à lire pour changer un petit peu. Et pour changer un petit peu, je propose de nous quitter sur une musique que vous aimez particulièrement, c'est une symphonie de Haydn. Hommage à François Roustan qui nous a quittés le 22 novembre dernier. C'était une rediffusion du dernier entretien que ce grand esprit libre et déroutant nous avait accordé en 2015.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, nous changerons de registre et de perspective, cap sur le grand continent blanc, autour de la question pourquoi et comment explorer l'Antarctique sur les traces de chercheurs aventuriers, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI. RFI.